7h20 à Paris, 3 otages israéliens, 369 prisonniers palestiniens. Un sixième échange aujourd'hui entre Israël et le Hamas à 2 semaines de la fin de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Un accord qui a frôlé le point de rupture cette semaine. Toujours dans le sillage des propos incendiaires de Donald Trump, sa volonté de déplacer les Palestiniens de Gaza, le Hamas a menacé de retarder la libération des otages prévus ce samedi, accusant Israël de ne pas respecter l'accord de trêve. Israël masse de nouveau des troupes aux frontières de l'enclave et se dit prête à tous les scénarios. Le cessez-le-feu peut-il tenir? La deuxième phase a-t-elle encore une chance de voir le jour alors que les négociations doivent reprendre? Notre invité ce matin pour y voir plus clair. Bonjour Jean-Paul Chagnolot.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée Moyen-Orient. On voit donc ce sixième échange aujourd'hui qui devrait se dérouler finalement comme prévu après les menaces des deux côtés cette semaine. Comment interprétez-vous cet apparent, je dis bien apparent, retour à la normale dans le déroulement de l'accord? La tension redescend d'un cran ou c'est trop tôt pour le dire?
Je crois que la tension ne va jamais retomber parce que nous sommes au contraire dans une situation extrêmement, extrêmement difficile. Alors que ces échanges puissent continuer, c'est une possibilité. Autrement dit, est-ce que le cessez-le-feu va durer? C'est possible, rien n'est certain, vous l'avez vous-même évoqué. Mais surtout, c'est l'horizon qui est complètement bouché. Et donc on est là dans une phase qui néglige la suite, c'est-à-dire que la suite, ça sera l'éventuelle deuxième phase. Mmh. Et cette deuxième phase, elle pose des questions majeures. Donc en fait, on avance, mais on avance d'un brouillard total. Et le fait que désormais, à Washington, il y ait un président qui méprise absolument le droit international et qui se permet des propositions qui datent du 19e siècle, eh bien évidemment, ça chamboule tout. Et évidemment aussi, on peut en reparler, ça donne très largement une carte blanche au gouvernement Netanyahou. Donc on peut espérer peut-être que le cessez-le-feu tienne et par conséquent que le processus d'échange entre les otages et les prisonniers palestiniens puisse continuer, mais ce n'est évidemment pas sûr. Et ensuite, on va buter sur des choses fondamentales.
On va continuer de parler de l'avenir, mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur aujourd'hui, après les polémiques sur les images des précédentes libérations, les mises en scène du Hamas, l'état physique des otages libérés la semaine dernière, qui a beaucoup choqué. À quoi faudra-t-il prêter attention aujourd'hui ?
Bah écoutez, moi je crois qu'il faut prêter attention à tout, c'est-à-dire évidemment l'état dans lequel les otages vont se trouver, la façon dont le Hamas va le mettre en scène, parce qu'évidemment pour le Hamas, ça, c'est une preuve à ses yeux en tout cas qu'il reste maître du territoire, c'est assez essentiel ça. Et puis aussi, il faut prêter attention à ce que sont les prisonniers palestiniens, les 369 prisonniers palestiniens, dont la plus grande partie, ce sont des personnes qui ont été arrêtés depuis le 7 octobre. Et donc là aussi, il y a toute une série de problèmes qu'on a en tendance un peu à oublier. Donc je crois qu'il faut regarder ça de très près. Mais d'un point de vue politique ou géopolitique, il est évident que ça signifie aussi que Netanyahou n'a pas réussi à éradiquer le Hamas. D'ailleurs, ce que les observateurs ont estimé que c'était impossible. Évidemment, il est très très affaibli sur le plan militaire. La question ne se pose même plus. Mais sur le plan politique, il est en capacité de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc, ça, évidemment, préempte la suite dont je disais tout à l'heure qu'elle était absolument, c'est un saut dans l'inconnu à tous égards.
Donald Trump a de nouveau perturbé, par ailleurs, le déroulement de l'accord cette semaine, en continuant de faire pression pour déplacer les Palestiniens de Gaza, bien sûr, mais aussi en appelant à la libération de tous les otages d'ici ce samedi, sans quoi, selon lui, il faudrait annuler l'accord et laisser l'enfer se déchaîner. La libération de tous les otages n'est pas ce que prévoit l'accord de cessez-le-feu. Comment interprétez-vous ces propos?
Je crois qu'on est dans cette logique de Trump qui consiste à ignorer toute forme de droit international. Il l'ignore à deux niveaux. Il l'ignore d'abord par rapport aux accords qui ont été tenus, le plan qui est un plan Biden, il faut quand même le rappeler, et qui se prolongeait, là aussi il faut le rappeler, par une résolution du Conseil de sécurité, c'était le 10 juin 2024, qui au fond donnait ces différentes étapes, qui devraient conduire à une deuxième phase qu'on évoquait tout à l'heure, puis une troisième très hypothétique évidemment, qui serait de l'ordre du politique. Donc c'est une manière de fracasser ou de fragiliser en tout cas un accord qui tout de même est assez important, parce qu'il y va par étape. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est aussi un mépris complet des principes fondamentaux du droit international. Quand on évoque l'idée d'un contrôle de Gaza par les États-Unis et évidemment ensuite cette idée de nettoyage ethnique, c'est des formules qui remontent au 19e siècle ou au début du 20e et qui étaient dans le droit international de l'époque, mais qui a été évidemment totalement écarté par le système international mis en place à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, sans parler de la dimension éthique, morale, qui est évidemment, mais ça, d'un point de vue strictement juridique, c'est tout à fait contraire, par exemple, à la 4e Convention de Genève, qui interdit tout transfert forcé. Enfin bref, il faut revenir à 1923 pour voir un échange de population entre Grecs et Turcs. C'était toléré à l'époque, nous sommes un siècle plus tard, et Trump continue de parler de ça, donc évidemment, c'est... Mais malheureusement, ça signifie aussi qu'avec une telle proposition inacceptable, d'autres choses qui sont tout aussi inacceptables, mais moins graves, pourraient être tout à fait légitimées. Je pense évidemment à ce qui peut se passer en Cisjordanie, notamment, dont on parle très peu.
Et dont l'annexion est de plus en plus évoquée. Exactement, Donald Trump doit par ailleurs s'exprimer là-dessus dans quelques semaines. Au moment de l'accord sur le cessez-le-feu obtenu avec l'intervention de Trump, justement, juste avant son arrivée au pouvoir, l'une des grilles de lecture, c'était celle du coup de pression du président républicain, celle d'un deal entre lui et Netanyahou, un accord de cessez-le-feu en échange d'un soutien américain à la reprise de la guerre à Gaza à la fin de la première phase. Ce scénario vous semble-t-il se confirmer? Est-ce que la deuxième phase de l'accord a encore des vraies chances d'être conclue aujourd'hui?
Moi, je dirais qu'il y a des vrais risques pour qu'il ne le soit pas. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans ce rapport de force, tout est possible. Vous l'avez vous-même évoqué, c'est-à-dire que d'un côté, Trump donne carte blanche, parce qu'en aller à évoquer de telles hypothèses de nettoyage ethnique, ça veut dire que tout est possible, au fond, sur le plan militaire. Et d'ailleurs, Netanyahou lui-même a dit que il pourrait se charger du travail, entre guillemets, pour le mot travail. Donc, il est clair que le gouvernement Netanyahou, comme on le savait depuis très longtemps, aura les coups des franches à Gaza, donc pour remettre en question la suite du processus, étant entendu que il est hors de question pour Netanyahou que les Palestiniens, pas simplement le Hamas, mais que les Palestiniens contrôlent le territoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire dès lors qu'il n'y a pas de plan alternatif? Et puis d'autre part, il faut être attentif à ce qui se passe en Cisjordanie. Il n'y a jamais eu autant de violence, jamais eu autant de répression et surtout de colonisation, avec l'idée que dans les prochaines semaines, on parle d'une annexion, en tout cas d'une partie du territoire. Donc c'est ça les objectifs. Et par conséquent, les phases du processus de cessez-le-feu ont peu de chances d'être réalisées dans un tel contexte.
Vous disiez cette deuxième phase, par ailleurs, poserait des questions majeures. Lesquelles ?
Il y en a deux. La première, c'est comment imaginer que Netanyahou accepte de retirer complètement les troupes israéliennes de Gaza et donc de ne plus en avoir un contrôle direct, même si évidemment il peut avoir un contrôle en s'installant tout autour de la bande de Gaza. Et puis le deuxième point, c'est qui va contrôler Gaza. Et il y a des projets qui viennent de différentes instances, qui consistent à dire ça peut être les Nations Unies, ça peut être évidemment les Palestiniens en liaison avec les Nations Unies, mais de tout cela, Netanyahou ne veut pas. Donc ça signifie, si on ne veut pas ce type de plan, ça veut dire qu'il veut garder le contrôle d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, ça ne peut pas faire fonctionner la deuxième phase, et moins encore la troisième, dont on ne parle même pas, puisqu'il s'agirait d'aller vers un processus politique de fond avec une perspective de deux États. Donc vous voyez, on est à des années-lumière de cette troisième phase. Et la deuxième elle-même est dans très handicapé dans le contexte actuel.
À des années-lumière, alors que les négociations, selon le Hamas, pourraient reprendre en début de semaine prochaine. Merci Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée Moyen-Orient, l'IREMO, pour faire plus court. Je cite aussi deux de vos ouvrages co-écrits avec Pierre Blanc, les livres Atlas du Moyen-Orient et Atlas des Palestiniens aux éditions Autrement. Bonne journée.